Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
On va faire un tour en forêt dans nos ribines. C'est au bois de Kerrero, à Plougastel d'Aoulas, un petit bois. C'est un bois qui appartient au conseil départemental du Finistère, car c'est un espace naturel sensible.
Bienvenue dans le bois de Kerrero. Donc, il fait partie du réseau d'environ 150 sites que le département a acheté au titre de sa politique espace naturel sensible.
Émilie Boitard est technicienne espace naturel du département.
Donc le Finistère est un peu précurseur en la matière puisqu'il a commencé à acheter des sites dans les années 70, alors même que la loi vraiment qui a donné compétence au département pour travailler à la protection des espaces naturels est arrivée en 85. Donc vous voyez, on n'a pas attendu que le législateur nous donne ces compétences-là pour travailler sur le sujet. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a à peu près 4000 hectares. Propriété du département sur l'ensemble du territoire, donc à la fois les monts d'arrêt, des zones de vallées, de forêts, des espaces un peu emblématiques comme le Ménéum, Ménesmeur, etc. Quand le département achète, c'est pas pour mettre sous cloche hein, des espaces naturels, on les achète parce qu'ils ont une richesse écologique et une fragilité, souvent, hein. On est obligé d'intervenir un petit peu pour les préserver. Vous allez le voir, on va longer pas mal de clôtures qui sont un peu récentes, hein, qui ont à peu près 2 ans, mais on est obligé des fois de passer par des aménagements de ce type-là, qui peuvent paraître un petit peu lourds, parce que sinon, en fait, les gens passaient partout. Du coup, y a du dérangement qui se crée sur les espèces, du piétinement. Et du coup, ça met en péril, en fait, la régénération même de la forêt. Donc voilà, c'est nos grandes missions, c'est d'accueillir le public dans de bonnes conditions, en pérennisant quand même la qualité du milieu qui fait qu'on l'a acheté.
Le bois de Kerrero est donc un bois d'arbres feuillus, des chênes, des hêtres et aussi quelques gros rochers qu'on peut escalader. Ça fait le bonheur des grimpeurs. Ils sont un peu plus hauts, ces rochers. On va s'en approcher. Tiens, qu'est-ce qu'on entend au loin ? Ça gratte, ça pioche, ça tamise. Les rochers, il y en a un qu'on ne peut plus escalader. Et pour cause, il est cerné par une clôture en bois. Et dans la clôture, sous le surplomb du rocher, une vingtaine de personnes gratouillent le sol. Ce sont des archéologues, étudiants venus de Rennes, de Toulouse ou même d'Oxford. Et aussi des archéologues amateurs qui passent l'été ici. Et ça fait 3 ans maintenant. Pour comprendre pourquoi ils sont là, il faut s'adresser à l'un d'entre eux. Aujourd'hui, c'est un retraité, mais il semble très impliqué sur le terrain. En fait, c'était lui, l'archéologue départemental, conservateur du patrimoine, Michel Le Goffic.
C'est juste après l'ouragan de 1987, de l'automne 87. Donc il y a une personne qui est décédée aujourd'hui, qui me connaissait, qui faisait partie d'une association de protection du patrimoine de Plougastel d'Aoulas, qui était allée en haut du rocher de l'Impératrice. Enfin, ce n'était pas vraiment le rocher de l'Impératrice, c'était la roche Noël qui est juste à côté, sur laquelle poussaient des pins maritimes. Et la tempête a provoqué un chablis. Un chablis, c'est un arbre couché par la tempête. Hein. Et donc les racines du pin étaient à la verticale. Et il avait vu, entre les racines de l'arbre, des tessons de poterie et des ossements. Et il m'a prévenu, donc je suis venu voir. Et quand je me suis rendu sur les lieux, je me suis rendu compte que c'était des os de boucherie. Vous voyez encore les traces de sciage. Et les tessons de poterie, c'était du 19e siècle, avec de la faïence en riau, des choses comme ça. Donc d'un intérêt archéologique très très relatif.
Les autres boucheries aussi, c'était du 19e.
Ah oui. Mais c'était la première fois que je venais en haut de ces rochers, hein, et j'ai admiré le panorama. Parce que là, c'est absolument extraordinaire, la vue que l'on a. On voit au-delà du goulet de Brest, hein, et on voit pratiquement les premières maisons de Landerneau. Tout l'estuaire, hein, toute la riade des Landes, quoi, pratiquement, oui, toute la riade des Landes. Et en plus, on voit un petit affluent de les Landes, hein, qui fait la limite de la commune du relais Kerruon, hein, qui se jette dans les Landes. Et je me suis dit, ah, si j'avais été chasseur préhistorique, hein, là, on avait un point de vue d'observation extraordinaire pour voir les hordes sauvages passer et partir à la chasse, hein, parce que je suis préhistorien de formation. Et puis bon, je suis descendu un petit peu plus loin par la roche de Noël, là, où c'est plus accessible que la falaise qu'on a là. Et en descendant, il y avait eu également un petit arbuste qui avait été arraché par la tempête, et entre les racines duquel, là, dans les terres, j'ai trouvé quelques tessons de l'âge du fer. Je dis, ah, ça devient intéressant. Hein. Plus on descend, plus on remonte dans le temps. Je ne m'étais pas dit ça parce que je pensais que c'était terminé. Et je suis arrivé un peu plus au nord, là, et j'ai longé donc, toute cette falaise de grès armoricain transformée en quartzite. Et en arrivant ici, je me suis dit, tiens, il y a un joli surplomb, là, ça ferait un abri sous roche intéressant. Je me suis approché, et moi avec mon frifurche, comme on dit en breton, hein, le nez qui fouille, je suis arrivé au pied sous l'abri sous roche, et par chance, il y avait un animal fouisseur, il n'a pas laissé sa carte de visite, donc je ne sais pas si c'est un blaireau ou un renard, mais sans doute l'un ou l'autre, qui avait commencé à creuser un terrier, il avait abandonné parce qu'il y avait trop de cailloux sans doute, et dans ces rejets, j'ai trouvé 3 belles lames de silex. Je me suis dit, ça y est, bingo, j'ai gagné. Donc c'est un abri sous roche qui a été occupé, je pensais au magdalénien, parce que je n'avais pas d'outils caractéristiques. Et un ou deux ans plus tard, il y a des grimpeurs qui ont voulu corser un petit peu le surplomb pour faire de la barappe et grimper. Et donc ils ont creusé dans l'abri sous roche pour le rendre plus difficile. Et un des grimpeurs qui me connaissait a vu que dans les rejets, il avait trouvé quelques silex qu'il est venu m'apporter. Alors je lui ai dit, ah voilà, vous ne saviez pas, c'est dommage, mais vous avez tapé dans un site archéologique très important. Alors il était un peu désolé. Alors je suis venu ici avec des tamis, et j'ai tamisé toutes les terres qu'ils ont extraites. Et là, j'ai sorti une cinquantaine de pièces de ce tamisage-là, dont des bipointes à dos courbes, basiliennes, qui étaient caractéristiques. Et je me suis dit, ça y est, on est dans un site asilien superbe. Ce n'est que lors de la première campagne de fouilles qu'on a trouvé la première plaquette gravée.
Et c'était quand ça ?
C'était il y a 4 ans.
Ah oui, donc vous avez attendu.
C'est la cinquième année aujourd'hui qu'on fouille, donc c'était la première année.
Vous avez attendu longtemps alors avant d'en savoir.
J'ai attendu presque 30 ans avant de fouiller ce site-là. Ouais. Mais pour une bonne raison, c'est que c'est un site de première importance qui demande un gros investissement intellectuel, financier, également de matériel, etc. On ne peut pas être à la merci d'un privé. Et à l'époque, le terrain appartenait à un couple de personnes, je ne vais pas citer les noms. Ce terrain était déjà en préemption départementale pour une autre raison. C'est qu'il existe ici une toute petite fougère, hein, qui est presque unique au monde, qui s'appelle Hyménophyllum, et également l'escargot de Quimper, hein, Elona quimperiana. Donc le site était en préemption départementale. Il était presque acquis par le département lorsque le couple a commencé à divorcer, ça n'allait plus. Et puis donc ça a pris du temps. Et ensuite la dame est décédée, donc ça a encore pris du temps. Il a fallu pratiquement 25 ans pour que le département devienne propriétaire. Et entre-temps, moi j'ai pris ma retraite.
Donc, vous êtes là quand même.
Oui, mais j'ai confié mon bébé, on va le dire, à un archéologue compétent, à la fois compétent et jeune, qui puisse aller jusqu'au bout de la fouille. Parce qu'on sait que quand on fouille un site comme celui-là, ça va durer plusieurs années. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Oui, là, on attaque la cinquième année de fouille, et donc on en a encore pour au moins 2 ans après cette année-ci. Après, on ne sait pas. Est-ce qu'on aura fini ou pas? On ne sait pas encore. Et non seulement ça, mais lorsqu'on a fouillé, il faut exploiter ce qu'on a fouillé. Et publier, rendre l'information au public. Parce que c'est quand même le public qui nous finance. Indirectement, c'est quand même le public qui nous finance. Donc il est normal qu'on rende au public ce qu'il nous a prêté.
L'archéologue compétent et jeune qui dirige désormais les fouilles s'appelle donc Nicolas Nodino. Il travaille pour le CNRS à Nice, Université Sophia Antipolis. Mais il passe ses étés dans le bois de Kerero pour la 3e année.
Bon voilà, donc on est dans le bois de Kerero et on est au pied de cette grande barre de grains armoricains, cette grande falaise, hein, qu'on va retrouver depuis globalement la Roche Maurice jusqu'à la pointe de l'Armorique, et qui a une formation assez similaire à celle qu'on va retrouver sur la presqu'île de Crozon, cette formation de grains armoricains. Tout au long de cette barre de grains armoricains, on va retrouver des petits abris sous roche de différentes tailles, comme celui-ci, qui sont des décrochements de blocs, hein, qui au fur et à mesure ont créé une petite casquette, comme ça, un petit abri dans lequel les hommes ont potentiellement pu s'abriter. Alors on sait qu'ici ils se sont abrités, hein. Ils se sont abrités il y a longtemps, il y a environ 14 500 ans pour être plus précis, donc environ 12 500 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Ni pinède, ni feuillu à cette époque-là, plutôt une grande steppe, donc un environnement très herbacé. Quelques pins, quelques buissons de genévrier, donc une végétation plutôt basse, de buissons, hein, au milieu d'une grande steppe herbacée. Donc vraiment quelque chose de très différent. Un niveau de la mer qui a changé aussi énormément, la rade de Brest telle que vous la connaissez à l'heure actuelle, rien à voir, hein, plutôt une grande plaine parcourue par des grands cours d'eau, l'Aulne, les Lornes, la Canfroute, la Daoulas, toutes ces rivières, la rivière du Fou et tant d'autres, toutes ces rivières qui devaient donc être beaucoup plus encaissées, qui devaient beaucoup plus creuser, hein, ce milieu, et drainer tous ces cours d'eau vers la mer de l'époque qui se trouvait à la hauteur de Ouessant à peu près. Hein. Il faut imaginer 80 à 100 mètres d'eau en moins durant cette époque. Donc vraiment, on est loin d'être sur la côte durant le paléolithique ici. Donc un milieu vraiment très très différent. Durant cette période-là, des gens sont venus s'installer sur ce site, sont venus se mettre à l'abri sous cette roche, sur un niveau de sol qu'on voit au fond, hein, ce niveau un peu jaune, hein, c'est à peu près le niveau de sol de l'époque. Donc, vous voyez, par rapport au niveau de sol sur lequel vous êtes aujourd'hui, on a eu beaucoup de sédiments qui se sont accumulés au cours des siècles, au cours des millénaires, et qui ont permis de protéger les dépôts archéologiques. Si on n'avait pas eu de sédiments, ces pièces archéologiques, eh bien, auraient été emportées par l'eau, par l'érosion, par le ruissellement, et on n'aurait pas de site archéologique. On a un peu plus d'un mètre de sédiments qui s'est déposé depuis l'installation asilienne. Donc voilà, l'asilien, j'en reviens. Donc on est sur un site préhistorique. La préhistoire va se diviser en trois grandes périodes. Le paléolithique, qui sont des gens qui sont des chasseurs, cueilleurs, nomades, hein, qui se déplacent de site en site, hein, et puis qui vont exploiter les ressources autour d'eux. Ce sont des prédateurs, hein, en gros. Le mésolithique, où il se passe exactement la même chose, hein, globalement. Et le néolithique, où là on assiste à un énorme changement, qui est la sédentarisation des sociétés, le développement de l'élevage et le développement de l'agriculture. D'accord ? Donc nous, on se situe dans le paléolithique, et plus précisément dans ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, qui est le moment où l'Homo sapiens va entrer en Europe et va se développer en Europe, entre 40 000 ans et 10 000 ans à peu près, entre moins 40 000 et moins 10 000. Nous, on se trouve donc à 14 500 ans avant le présent, c'est-à-dire entre deux grandes cultures préhistoriques, une qu'on appelle le Magdalénien, pour aller un peu vite, c'est Lascaux, ou les grands sites comme Pincevent dans le bassin parisien, et une autre culture qu'on appelle l'Asilien, qui est très différente, où on assiste à beaucoup de changements, avec des débitages, des façons de fabriquer les outils beaucoup plus simples que dans le Magdalénien, des choses très simples, très rapides. Et sur le plan artistique, la disparition totale de l'art figuratif sur les parois, tel qu'on peut le connaître à Lascaux, à Altamira, à Agno, etc., pour des gravures sur des petits galets avec des signes géométriques. Ça, c'est ce qui caractérise l'Asilien. Nous ici, on va être à la transition entre ces deux moments. C'est ce qui fait l'intérêt de ce site. C'est que c'est un site qui va nous permettre de comprendre le basculement d'une tradition technique et artistique à une autre tradition technique et artistique. D'accord ? Donc ça va nous permettre de comprendre selon quelle modalité, à quel rythme et par quel mécanisme on va avoir des changements au sein d'une société. Et ces sites-là, il y en a très peu en Europe. Il y en a très peu en Europe et encore moins en Bretagne. Ils sont tous très précieux pour comprendre ces mécanismes-là qui sont essentiels pour comprendre comment l'humanité évolue, comment elle fonctionne, comment ces sociétés changent. Donc c'est ce qui fait en partie la particularité du site du Rocher de l'Impératrice. Ces Asiliens anciens, on appelle ça de l'Asilien ancien, cette transition de l'Asilien ancien, ils sont venus ici, a priori, pas beaucoup de gens, pas très longtemps, pour pratiquer des chasses. Donc, on est sur un petit camp de chasse sur lequel ils ont taillé le silex pour faire des petites pointes de flèches en grande quantité. On a beaucoup de ces déchets de taille de silex, donc on sait qu'ils ont taillé sur place ces pointes de flèches. On a également en grande quantité des pointes qui portent des traces d'impact, donc des pointes qui ont été utilisées par les gens pour chasser et qui ont été ramenées sur le campement après la chasse. A priori, soit sur une flèche parce qu'ils ont tapé un arbre, soit dans un animal parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Donc une activité de chasse importante, et on sait également grâce à la tracéologie, donc l'étude des traces sur les tranchants des silex, comment ces silex sont usés, on sait également qu'ils ont découpé des animaux, découpé de la peau, découpé de la viande, et donc on pense qu'il y a eu des activités importantes également de découpe d'animaux, de boucherie. Tout ça, ça va dans le sens effectivement d'un site essentiellement orienté vers la chasse. Donc c'est certainement ce qui a motivé les gens à venir ici. Alors, quand on connaît la position du site, hein, qui a une vue dominante sur l'actuelle rade de Brest, mais donc à l'époque sur ce grand espace parcouru de vallées très encaissées, qui sont en général des vecteurs de déplacement d'animaux et d'hommes. Hein, les cours d'eau, ça a toujours été de tout temps des axes de circulation. Et bien on est sur une position dominante sur ces troupeaux, et donc on est sur un site vraiment qui est tout à fait adapté à cette chasse. Donc un camp de chasse avec des activités de chasse importantes, très peu de débitage de la pierre. On sait qu'ils sont venus avec des outils tout faits. Ces gens sont venus avec dans leur poche des trousses à outils, différents types d'outils. Sur place, ils ont uniquement produit des pointes de flèche. D'accord ? Et ensuite, ils sont partis ailleurs en emportant avec eux les blocs de silex qu'ils avaient commencé à exploiter sur le site. Ça, on ne les retrouve pas, ils sont partis sur un autre site. Au-delà de ces activités liées à la chasse, avec un petit peu de débitage de silex pour produire ces armes de chasse, les gens ont également gravé des plaquettes de schiste. Le schiste, c'est comme de l'ardoise. Et ça fait vraiment une des particularités du site, qui est donc le plus ancien site préhistorique avec de l'art en Bretagne, les plus anciennes traces d'art bretonne, disons, autour de 14 500 ans. On a donc une cinquantaine de fragments de plaquettes de schiste gravés sur ce site. Dans la grande majorité, des petits fragments de schiste avec un ou deux traits dessus, qui sont des fragments de quelque chose de plus grand qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre. Une autre partie avec des signes géométriques, on va avoir des triangles, on va avoir des zigzags, on a des petites ellipses, ce genre de choses. Donc très géométriques, qui rappellent ce qui se passe dans l'Asilien pour le coup, mais qu'on connaît déjà dans d'autres périodes, mais qui rappellent ce qui va se passer dans l'Asilien récent, dans la phase, dans le plein Asilien disons. Et à côté de ça, des tracés vraiment très figuratifs et très naturalistes. avec notamment ce qu'on appelle le Buurskedus ou le Kezekbrau, ces grandes plaquettes avec des tracés très réalistes, qui sont exceptionnels, bon, en Bretagne bien sûr, mais qui sont quand même très rares au niveau national. Le roc rayonnant et puis les chevaux sur une très grosse plaquette, on a d'un côté un cheval, de l'autre trois chevaux dont un petit bébé entre les jambes d'un adulte. C'est quand même un truc plutôt sympa. Donc au niveau patrimonial, très important parce que les premières traces d'art en Bretagne, et au niveau de la science en général pour les chercheurs en préhistoire, on va renseigner un moment qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît très mal en tout cas, entre cet art magdalénien qui commence à être bien connu, parce qu'on a quand même beaucoup de sites, notamment dans le sud-ouest de la France, et cet art asilien qu'on connaît également un petit peu avec ses tracés très géométriques. On va avoir un petit peu le moment de cette transition, on va commencer à comprendre comment se fait ce basculement. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on arrive à montrer que sur le plan technique, ces sociétés sont déjà dans l'asilien, ils produisent déjà des débitages assez simplifiés qui caractérisent l'asilien, mais sur le plan artistique, ils gardent les traditions héritées du magdalénien. Ça veut dire que c'est comme nous aujourd'hui, notre technologie avance très vite, mais nos traditions, nos croyances, elles sont quand même encore ancrées dans les traditions qui nous sont héritées de nos parents, nos grands-parents, etc. Même si c'est bien sûr alimenté d'un monde quand même très mondialisé. Mais voilà, donc les traditions, les cultures mettent plus de temps à changer que la technique. Et ça, même si on le sait sur le plan anthropologique, c'est quelque chose de commun, archéologiquement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en évidence. Et là, sur ce site, on peut le mettre directement en évidence. C'est ce qui fait tout l'intérêt du rocher de l'impératrice. Voilà, donc ces plaquettes, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elles étaient également colorées. On a des traces de pigments dans plusieurs de ces plaquettes, des colorants noirs, qu'on a pu identifier grâce à de la spectrométrie, ce qu'on appelle le raman, qui nous donnait un signal de carbone. Donc on sait que c'est du carbone, et donc en l'occurrence du charbon de bois, qui est utilisé pour peindre certaines de ces plaquettes gravées.
La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils les ont laissées là ?
Alors, la vraie question, c'est de savoir pourquoi ils les ont faites déjà. Pourquoi est-ce qu'ils ont gravé ça ? Et ça, moi, ça c'est plus mon travail, en fait. C'est que, moi, je suis vraiment archéologue. Mon travail, c'est de me baser sur des faits archéologiques, sur des éléments factuels et empiriques. Et en l'occurrence, ça, on rentre dans un domaine interprétatif qui est hors de notre portée, à mon sens. Les préhistoriens s'y sont beaucoup essayés, à mon avis, en vain. Mais dans tous les cas, moi, je suis pas spécialiste de l'art préhistorique et je ne me permets pas de rentrer. J'ai une collègue qui travaille avec moi, Camille Bourdier, qui travaille vraiment sur l'art et qui, elle, pareil, est très, très prudente sur ce type d'interprétation. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux techniques qui ont été utilisées pour faire ces gravures. On va intéresser à comparer ces gravures avec d'autres sites, essayer de voir comment se transforme l'art, si on peut avoir des traditions régionales, ce genre de choses. Mais sur l'interprétation, sur le pourquoi de tout ça, on s'y risque très peu. Alors après, en fonction de cette réponse-là, on saura pourquoi ils les ont laissées ou non. Si c'est des choses qu'ils ont fait comme ça parce qu'ils n'avaient pas la télé et ils se sont amusés à graver des choses, il n'y a pas de raison de ne pas les laisser là. Donc ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'effectivement, ce soit quelque chose qui soit lié à la chasse et que, bon, une fois que ça a été fait, ils sont partis. L'autre hypothèse, ça peut être un dépôt rituel. Là-dessus, vraiment. Je précise bien que moi, je n'ai aucune idée et que c'est inabordable pour moi.
Est-ce qu'il était sur les parois ?
Alors, sur les parois, est-ce qu'il y a eu quelque chose ? On n'en sait rien. D'abord, on sait qu'ils n'ont pas pu graver les parois. Cette roche, elle est beaucoup trop dure. Ils n'ont pas pu graver ces parois. Alors, est-ce qu'ils les ont peintes ? Ça, on ne le saura jamais, puisque contrairement à une grotte où on a des tuyaux, enfin des galeries, ici, ces peintures auraient été exposées aux intempéries, au ruissellement, au vent, à ce que vous voulez, pendant des millénaires. Tout aurait disparu. Après, on sait que ces groupes de l'Asie ancienne, a priori, on ne connaît pas beaucoup d'art pariétal. On en connaît un en Seine-Maritime, où ils ont gravé les parois de la roche du côté de la Seine-Maritime. Voilà.
Vous avez trouvé des ossements de faune ou pas du tout ?
Non, alors ça, on est en Bretagne. En Bretagne, pas de faune. Le sol est beaucoup trop acide. Dans tout le massif armoricain, on n'a jamais de faune. À part, dans des conditions très particulières, sur le littoral, parce que les gens ont consommé beaucoup de coquilles, beaucoup de coquillages. Ils font des gros tas de coquillages. C'est le cas d'un site à Quiberon, que fouille mon collègue Grégoire Marchand, Bégarville, où les gens ont consommé énormément de coquillages, ils les ont laissés, ils ont enterré des morts dedans, etc. Et du coup, là, l'os, grâce aux apports du carbonate des coquillages, va être conservé de façon assez exceptionnelle. Mais sinon, en Bretagne, non, pas d'os. Donc l'idée de la faune de cette époque-là, on ne peut l'avoir qu'en indirect. Par les régions voisines, le bassin aquitain, le bassin parisien, on va retrouver de la faune. Bon, les plaquettes gravées, qui nous montrent bien qu'ils ont déjà vu ces animaux en tout cas. Au roc cheval sur les plaquettes gravées en tout cas. Mais si on regarde dans les régions avoisinantes, effectivement, le cerf est également présent. Le renne potentiellement, les derniers rennes potentiellement. Mais là, on est sur une question un peu en cours de discussion, mais peut-être qu'il reste quelques rennes dans certaines régions, notamment dans le nord de la France, le bassin parisien. Peut-être. Pareil pour les activités. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ont fait de la boucherie si on n'a pas d'os ? Eh bien, les usures sur les tranchants des outils nous permettent de dire qu'ils ont travaillé ça. On a également du travail de l'os, ils ont un petit peu raclé de l'os, donc on sait grâce aux traces sur les outils. D'accord, donc, toujours du témoignage indirect de ces activités. On a du charbon de bois, un petit peu, ce qui nous a permis de faire des datations carbone 14, qui donne des dates autour de 14 700, 14 800. Mais finalement, assez peu de charbon quand même pour le niveau. Très peu de silex brûlé, donc pas des activités intenses de feu. Par contre, on a une petite occupation un peu plus récente qui date de la fin du néolithique sur le site, qui elle livre de nombreux foyers et de nombreux charbons de bois.
Justement, combien de temps elle a été utilisée ? Enfin, sans doute pas en continu, mais...
Alors, au moins à partir de l'asilien, a priori on n'a rien pour l'instant de plus ancien, donc au moins à partir de l'asilien ancien, donc 14 700, 800. puis jusqu'à nous aujourd'hui, avec une petite phase d'occupation dans le néolithique final, autour de moins 4000, la transition avec l'âge des métaux à peu près, puis une autre phase d'occupation importante pendant la Seconde Guerre par la Wehrmacht, et puis des occupations importantes par les grimpeurs, par les gens qui viennent pique-niquer, voilà, on a pas mal de vestiges de pique-nique de Brestois sur les niveaux superficiels.
De toute façon là c'est qu'un abri, il n'y a pas de galerie derrière.
Non, on n'est pas sur un phénomène karstique comme dans les milieux calcaires, on va voir ces grands creusements qui sont par l'eau, hein, par l'érosion. Ici c'est uniquement de l'effondrement qui produit une petite casquette sous laquelle on peut s'abriter. C'est pas une grotte, c'est bien un abri sous roche. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence. On a une équipe d'une vingtaine de personnes, principalement des étudiants en archéologie, qui viennent de différentes universités, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nice et Oxford. Et des amateurs, donc des archéologues amateurs, qui sont donc des gens avec qui on travaille énormément, surtout en Bretagne, on a l'habitude de travailler avec ces archéologues amateurs, qui donnent un coup de main incroyable, vraiment. Et c'est vraiment une spécificité de l'archéologie en Bretagne, c'est cette relation de confiance entre l'archéologie académique, hein, vraiment les chercheurs, et l'archéologie amateur. Eux nous apportent de nouveaux sites, donnent des coups de main sur les fouilles, et nous à côté on les intègre véritablement en tant qu'acteurs véritables, hein, dans nos projets de recherche, dans nos publications, etc. Et c'est une relation de confiance qui est vraiment une particularité et une grosse qualité de l'archéologie bretonne.
Et c'est bel et bien confirmé par un autre acteur de ces fouilles, Bernard Jacques, qui est responsable de la conservation départementale des patrimoines et des musées.
C'est mal connu, mais il y a énormément de Finistériens, en l'occurrence pour le Finistère, qui soient élus, qui soient amateurs, qui soient amateurs éclairés, ou des associations. Tous les mois, presque toutes les semaines, on est alerté à la mission par des découvertes fortuites. Donc il s'agit d'étudier, et selon le niveau d'étude, selon la qualité, cet élément-là contribue, après quelques études un peu plus poussées, à être inscrit sur la carte nationale archéologique. Il y a 5500 sites sur la Bretagne, on peut penser qu'il y a plus de 1000 sites sur le Finistère, et de toute époque confondue, le Finistère étant véritablement une terre d'archéologie.
Une terre d'archéologie, mais pas forcément toujours facile à exploiter, et c'est le cas ici au Rocher de l'Impératrice, même plutôt compliqué.
Déjà sur le plan logistique, hein, on est donc un petit peu loin de la route, etc., et c'est pas plus mal. Mais du coup, on a ces très gros blocs de pierre, hein, qui sont tombés après l'occupation sur le site, et donc on est obligé de les retirer. Et c'est pas toujours évident sans moyens mécaniques. Ça veut dire qu'on va devoir toujours trouver des solutions un petit peu antiques. Hein. Donc on va utiliser des palans, des tire-forts pour extraire la plupart de ces blocs. Hein. On va devoir essayer de les détruire des fois. Le grès armoricain est une roche très, très difficile à détruire, très, très dure, hein, contrairement à du granit par exemple. Donc il faut toujours essayer de jouer un petit peu avec tout ça sur le plan logistique, avec des conseils. De tailleurs de pierre notamment, on a Joël Kerr-Hervé qui est tailleur de pierre dans les Monts d'Arrée et qui nous a donné un gros coup de main cette année, donc voilà, il fait partie de ces gens qui donnent des coups de main de façon bénévole et qu'on remercie beaucoup. Donc ça c'est vraiment une des grosses difficultés sur le site. L'autre difficulté qu'on a dû gérer depuis 2013, c'est simplement des gens mal intentionnés qui ont pillé le site, hein, durant toutes ces années, pillé et détruit. Donc des fois des simples curieux, hein, qui sont venus ramasser des pièces, peut-être sans savoir qu'ils faisaient du mal au site. Hein. Il faut savoir que nous, une pièce qui est enlevée de notre site, ça a des gros impacts, hein, parce que ce qui compte, nous, c'est pas la pièce en elle-même, c'est sa position et son contexte et son rapport avec les autres pièces. Si vous enlevez une de ces pièces, on perd une information énorme. Au-delà de ça, vous pouvez le voir, on essaye de travailler de façon propre, hein, organisée, on a des coupes très droites, on fouille de façon très lente, on enregistre absolument tout ce qu'on voit. Donc quelqu'un qui vient nous avec un piochon et qui pendant une heure tape sur un bord de coupe, c'est quasiment un mois de travail qui s'envole. Et donc ça, on a subi des importantes détériorations, des importants pillages entre 2013 et 2016, jusqu'à ce que le conseil départemental et le service régional de l'archéologie puissent mettre en place cette protection du site qui nous permet aujourd'hui de travailler dans des conditions beaucoup, beaucoup plus confortables et qui nous permettent aussi de vous accueillir aujourd'hui et de diffuser un petit peu toute cette information qu'on a dû garder pour nous durant ces années-là, sous peine d'attirer encore plus de pilleurs. Donc voilà, on est désolé de ça et aujourd'hui on peut enfin ouvrir les vannes et diffuser tout ça. Alors à la fois auprès du public directement à travers la presse, mais également auprès de nos collègues par des publications scientifiques qu'on avait dû retenir un petit peu ces dernières années.
Et les pièces qui ont été trouvées, on les verra bientôt ?
Pour le moment, elles sont en cours d'étude pendant quelques années. Ça prend du temps parce qu'il y a différents collaborateurs qui participent à cette étude. Moi, je travaille sur la technologie, sur la façon dont les gens taillent la pierre. J'ai des collègues qui travaillent sur ces traces d'usure dont je vous ai parlé, la tracéologie. Des collègues qui travaillent sur le style de ces plaquettes gravées, vraiment sur l'art en lui-même. Des collègues qui travaillent sur les outils qui ont servi à graver ces plaquettes. D'autres qui travaillent sur les sédiments, d'autres qui travaillent sur les couches, etc. Voilà, donc tout ça prend du temps. Une fois que tout ça est réalisé, le matériel appartient au propriétaire du site qui est le conseil départemental du Finistère. Donc à partir de ce moment-là, le matériel va être stocké, entreposé de façon organisée, hein, répertorié dans des bases de données, dans le dépôt départemental qui se trouve au Fou, au centre départemental d'archéologie du conseil départemental du Finistère. Et ensuite, effectivement,
une partie de ce matériel sera entreposée dans un musée finistérien et puis l'autre matériel pourra, le matériel pourra éventuellement faire l'objet d'expositions à travers la France en fonction des demandes avec l'autorisation du propriétaire du site. La commune de Plougastel, donc, qui est aussi partenaire de l'opération et qui finance en partie l'opération, voulait avoir les plaquettes gravées au musée de la Fraise. Bon, moi j'aurais bien fait comprendre que c'était impossible, hein, du fait que le musée de la Fraise n'avait pas les conditions appropriées pour ce type de matériel, et qu'encore une fois, moi j'étais pas en mesure de prendre la moindre décision, et que c'était le propriétaire qui prenait ce genre de décision. L'idée avait été à ce moment-là de faire des scans 3D de ces plaquettes de schiste, qui pour le coup ne sont pas du tout destructifs, alors qu'un moulage peut l'être, hein, parce que je vous ai dit, on a des pigments sur ces plaquettes gravées, donc le fait de faire un moulage peut éventuellement endommager ces pigments. Alors qu'un scanner 3D, lui, il n'y a pas de contact avec le matériel, donc il y a une solution assez parfaite en fait pour pouvoir faire une reconstitution. Donc, l'idée c'est d'imprimer en 3D ces objets pour pouvoir éventuellement les exposer sur la commune. Effectivement c'est en cours de discussion, je sais que ça a été évoqué au conseil municipal de Plougastel, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a fait en concertation avec le conseil départemental du Finistère. Après moi ça sort de mon domaine scientifique et voilà.
Pour en savoir plus sur ce site archéologique du Rocher de l'Impératrice, nous vous donnons rendez-vous entre autres sur le site internet du Conseil départemental du Finistère et également sur le site internet de la radio.